Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, donc l'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». Le regard d'ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir son regard sur le monde, à travers des parcours, à travers des expériences de vie. Donc j'aime bien donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des expatriés, des immigrés aussi. Voilà, c'est vraiment cette envie d'élargir à travers ce spectre d'expériences qu'on peut vivre soit en France, soit à l'international. Je t'ai rencontré dans une soirée récemment, une soirée sur le thème de l'Inde, où on a chanté des mantras tous ensemble. Et j'ai cru comprendre entre les lignes que tu rentrais de voyage où tu avais passé plusieurs années, 10 ans, 15 ans peut-être, je sais plus, sur la route. Je sais que tu t'appelles Aurélie, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre le temps dans cette émission Regarde ailleurs, de donner la parole. Et peut-être de revenir un peu aux origines. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de peut-être voir ce qui se passe ailleurs, parce que tu es comme moi, alsacienne, colmarienne, mais voyageuse aussi. Donc on va revenir à ce moment-là de ta vie où tu te dis, bon allez, j'ai peut-être envie d'aller voir au-delà de ma ville, de mon village ou de mes frontières.
Ok, bonjour, merci de cet accueil. Alors effectivement, j'ai grandi à Colmar. Et mon appel pour l'ailleurs, ça a commencé très tôt. Je pense que je devais avoir 12-13 ans. Et c'était plus une sensation que je me sentais restreinte et limitée dans mon environnement. Alors déjà, relativement tôt. Et j'avais vraiment cette image ou cette nostalgie des années 70 que je n'ai absolument pas connue avec le mouvement hippie, ce côté communautaire en fait, communauté, le vivre ensemble. Et ce que je vivais à l'adolescence me paraissait très fade par rapport à cette période-là que certainement j'idéalisais. Et donc j'ai commencé à... vouloir m'échapper, je voulais déjà partir faire des échanges à l'étranger, faire une année à l'étranger qui finalement n'a pas pu se faire. Et j'ai attendu jusqu'à 17 ans pour faire mon premier voyage seule. Alors je suis partie quand même en Australie, j'ai eu la chance de pouvoir aller assez loin. Et du coup, je me suis retrouvée à Cairns pendant un mois dans une famille d'accueil et apprendre l'anglais et voilà, à l'autre bout du monde. Ça a commencé comme ça.
Alors ça, c'est marrant parce que j'entends souvent parler de l'Australie. C'est un peu un voyage initiatique pour beaucoup de jeunes Français. Ils ont mis en place le PVT, le Working Holiday Visa, qui permettait de partir et travailler à l'étranger. C'est ce que tu as fait ?
Alors, je l'ai fait plus tard. À 17 ans, c'était vraiment un échange, on va dire, plus pour les lycéens. Et ensuite, je suis repartie en Australie dans le cadre du Working Holiday Visa plus tard quand j'avais 24 ans. 24, 25 ans.
Donc se pose la question, quand on a 17 ans, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Donc t'as ta famille qui te la pose, tes profs, ton conseil d'orientation, donc toi, qu'est-ce que tu voulais faire à cet âge-là ? Est-ce que c'est finalement ce que tu es devenu ? Ou amène-nous avec toi sur ton itinéraire personnel.
Alors moi, à 17, 18 ans, j'avais absolument aucune idée et tout était envisageable. Et je pense que c'est ça qui faisait que j'étais dépassée par tout ce qui était possible. Et je me voyais pas du tout m'engager dans une voie. Enfin, je me souviens avoir pensé, je peux être tout autant serveuse dans les Bahamas que peut-être astronaute, que peut-être... j'avais vraiment aucune idée. Et je trouvais que c'était vraiment dur, en fait, de choisir, de déjà, entre guillemets, s'enfermer dans une voie à cet âge-là, alors que soi-même, on se connaît pas. Et je pense que du coup, cette quête, cette envie de voyage, c'était vraiment d'abord avant de savoir ce que je vais faire du reste de ma vie. Il faut que je me comprenne, il faut que je sache qui je suis. Et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses aussi au niveau un petit peu psychologique qui me suivaient ou bien des choses qui étaient difficiles à vivre à cette période. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi ça c'était là, pourquoi ça me suivait.
Donc tu pars, premier grand voyage en Australie, mais tu y retournes en 2000... Non, tu y retournes quelques années plus tard, à l'âge de 25 ans.
Non, il y a eu d'autres voyages. Du coup, à 18 ans, après cette période, c'est un mois à Cairns que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que milieu international, on est loin en fait. J'ai vraiment eu l'impression que le fait d'être loin de notre quotidien nous apporte une forme de liberté, comme une respiration, un souffle qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, ensuite, j'avais l'impression, en revenant chez moi, j'ai l'impression d'être de nouveau enfermée. Donc, j'avais de nouveau envie de repartir. C'est un peu le piège de ce style de vie-là. Et donc, à 18 ans, quand j'ai passé mon bac, je suis repartie pour une année de césure. Et donc, j'ai passé 2 mois et demi à Hawaï. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir voir Hawaï. Et ensuite, j'ai passé 6 mois en Argentine, principalement à Buenos Aires.
Est-ce que tu avais un fil rouge dans tes voyages, hein, de ce que tu disais dans le problème de ces modes de vie? C'est vrai que quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Et se pose vite la question du sens et le pourquoi du voyage finalement. Est-ce que c'est une fuite? Pourquoi est-ce qu'on voyage? Et je rencontre souvent des gens qui, à un moment donné dans le voyage, on a quand même besoin d'avoir un objectif, un projet, sinon on peut se perdre aussi à tout le temps vadrouiller d'un continent, d'un pays à un autre.
Alors c'est tout à fait quelque chose que j'ai vécu, le fait de me perdre dans le voyage. Après, aussitôt, quand j'avais 18 ans, en fait, moi, j'ai complètement idéalisé la chose en me disant « je vais repartir, ça ira mieux, en fait. Je vais repartir, tout va s'éclaircir. De toute façon, c'est juste une question de trouver le bon lieu. » Et je voyais qu'en fait, autant il y avait certaines choses qui se dénouaient, autant il y avait certains problèmes que j'avais qui me suivaient. Et je me suis dit, alors c'est peut-être pas le bon endroit, il faut que je continue. Mais effectivement, ça a été parce qu'en fait, je me suis construit comme ça dans ma vingtaine. Donc, quand on se construit comme ça en tant que jeune adulte, j'ai l'impression qu'après, on sait pas vivre autrement, en fait. C'est tout ce qu'on connaît. Donc, moi, dans ma vingtaine, en fait, j'ai connu que le mouvement, que recommencer tous les 3 à 6 mois. Et c'est plein, plein de vie. Mais en même temps, entre les deux expériences, il y a des phases de vide, hein, parce que on se retrouve, tous les gens qu'on a connus à l'étranger sont repartis chez eux, donc il y a ces moments de latence où on sort de quelque chose de très vivant et on se retrouve un petit peu en pause en se disant mais où est-ce que ça va tout ça finalement, quoi, est-ce que ça va vraiment quelque part?
Et comment tu réponds à cette question, parce que c'est une question que beaucoup de voyageurs se posent?
Ouais. J'ai l'impression que pour moi, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça a demandé beaucoup, beaucoup d'acceptation de soi, de compréhension de soi. Le fait que finalement, la quête de l'endroit idéal, c'était plus ou moins une illusion. Ça a vraiment pris du temps. Et j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure, on comprend ça et puis on se comprend soi-même aussi un petit peu mieux, et puis on accepte ces facettes-là de soi qui sont finalement instables. Et je pense que pour moi, ce qui m'a aidée, c'est d'arrêter d'avoir cette pression de « le prochain endroit, ce sera le bon ». Et de continuer, et en fait de me laisser porter, parce que j'ai aussi essayé plus tard de me forcer à rester dans un endroit, et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'étais là, ok, je cherche, ça ne fonctionne pas, je force à me poser, ça ne fonctionne pas. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment une espèce de lâcher prise en me disant la vie, en fait, elle va m'amener là où je dois être et peut-être que je me poserai jamais. Donc, il y a eu une espèce de deuil de si ça se trouve, ça n'arrivera pas. Peut-être que je vivrai toujours dans le mouvement, mais du coup, j'accepterai plus d'être dans le moment présent parce qu'il n'y aura pas ce et après, je vais où? Et après, je vais où? Et en fait, mais ça, je pense que c'est venu vraiment avec la maturité, ce côté... Ok, maintenant j'accepte que finalement je ne suis pas dans le contrôle de ça, ça va au-delà de moi et je fais confiance à ce que la vie, elle m'amène là où je dois être, même si ce n'est pas forcément là où j'aurais pensé être.
Bon, en tout cas, tu vas bientôt accueillir la vie, donc ça, ce sera un tout nouveau voyage, on en parlera plus tard dans cette émission, mais on va quand même rester sur cette notion du mouvement. Tu as quel âge aujourd'hui?
Là, j'ai 36 ans, je suis sur mes 37.
Et tu as commencé, donc tu disais assez jeune, vers 17-18 ans.
Hein. Ouais, 18 ans, 17 ans, premier voyage et 18 ans, voyage sans fin, on va dire.
Voyage sans fin, avec cette envie de trouver la destination. Et donc, comment est-ce qu'on la trouve, cette destination? Comment est-ce que tu choisissais de partir d'un pays à un autre? Quel était ton fil rouge, ou quelles étaient pour toi les choses qui faisaient acter une destination plutôt qu'une autre?
J'avais l'impression que j'avais vraiment une envie de... Bon, il y avait des envies un peu superficielles telles que le soleil, une vie où on peut être quand même assez souvent à l'extérieur. J'aimais pas cette idée de... de rester chez soi, en fait. Et je trouve qu'il y a vraiment des environnements qui encouragent le fait de sortir. Et pour moi, naturellement, ça encourage la vie, en fait. Quand on peut être dehors, on rencontre plus facilement les gens, il y a du soleil, on va plus facilement sortir. Et je trouve qu'il y a tout... Il y avait une recherche de lien, en fait, beaucoup dans ces voyages. Alors, je ne savais pas vraiment quel type de lien, mais ouais, de rencontres. Ouais, c'était aussi cette idée où il y a des pays, en fait, où naturellement, les gens sont plus dans le vivre ensemble que nous, on va l'être peut-être dans des pays européens nordiques. Et ça, notamment, ça motivait beaucoup mon choix d'endroit.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Notion du vivre ensemble, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'isolement, hein, finalement, des grands mots de nos sociétés, c'est la solitude. On s'est individualisé avec peut-être le système capitaliste, matérialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se retrouver ensemble, d'être en lien. On le voit avec l'explosion des collectifs un peu partout en France et dans le monde entier. Tu disais au tout début de cette émission, les hippies, t'avais vu tu idéalisais la période des années 70 où il y avait tous les hippies qu'on pouvait voir. Est-ce que t'as rencontré les hippies et qu'est-ce que c'est qu'un hippie? Est-ce que tu es une hippie?
Non, j'ai l'impression qu'en fait je suis quelqu'un qui, peut-être pour les gens qui vivent traditionnellement, on va dire, de manière plus classique, je vais paraître hippie. Et pour les hippies, je vais paraître très traditionnelle. Mais ça a mis du temps, pareil, pour comprendre ça. Et j'ai l'impression que dans ma quête, j'ai essayé beaucoup de milieux différents. Au départ, en jouant le jeu et en essayant finalement d'être pareil que ces milieux que je rencontrais. Alors ça peut être des milieux hippies à Goa, ça va être des milieux communautaires dans le sud de la France. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, ça collait jamais parfaitement. Et du coup, j'ai arrêté au fur et à mesure de vouloir ressembler à une espèce d'idée ou à une espèce de à vouloir rentrer dans un mouvement. J'ai adopté certaines valeurs et j'ai l'impression que là, j'arrive à m'adapter à beaucoup plus de milieux différents, on va dire, en restant moi-même, en prenant ce qui me convient et en laissant ce qui me convient moins. Mais je peux pas dire que je suis une hippie dans l'âme parce qu'il y a quand même des choses de la société que je valorise, notamment un certain confort, notamment maintenant avec l'arrivée d'un enfant et puis la trentaine. Et je trouve que aussi quand on peut aller dans certains milieux qu'on va juger hippie, il y a quand même une forme d'intolérance à ce qui est différent et ce qui rentre pas. Enfin voilà, on se dit des fois c'est hyper ouvert, que ce soit des milieux artistiques ou des milieux hippies, etc. Et en fait, moi, dans certains, j'ai rencontré quand même pas mal d'intolérance dès qu'on n'était pas des fois juste parce qu'on n'était pas habillés de la même façon. Et c'est quelque chose que avec lequel, pour moi, l'ouverture, c'est la base, quel que soit le milieu. Donc voilà, ça, je dirais que non, je ne suis pas hippie.
Aurélie, tu as commencé à voyager à 17, tu en as 37 aujourd'hui. Tu disais que souvent, il y a cette phase de vie entre 20 et 30 où on se construit. Mm-hmm. Et ça va sûrement déterminer ou souvent déterminer la suite de son itinéraire. Ouais. On a aussi ce besoin de se construire une identité. Donc comment est-ce que tu te définissais entre 20 et 30? Qui étais-tu quand tu voyageais? Quel était, je sais pas, tu te présentais comment?
C'est marrant parce que... J'ai toujours eu l'impression d'être quand même un peu perdue. J'ai l'impression que ce mot-là est beaucoup, beaucoup revenu. Et j'avais vraiment des appels intuitifs. Et à partir ou à me rencontrer d'une certaine manière. Et finalement, souvent, ce n'était pas exactement ce que je m'imaginais. Donc, j'ai l'impression de beaucoup surfer à l'aveuglette, en fait, dans ma vingtaine. Et de jongler entre le fait d'être appelée par l'ailleurs et donc de partir... Et puis de revenir dans le cadre. Donc, j'ai quand même fait des études, une licence en hôtellerie-restauration. J'ai fait une école de commerce, alors quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Mais
parce que je faisais des va-et-vient entre le fait de partir et le fait de revouloir m'installer dans la société en me disant « Non, mais ce que tu fais, c'est pas juste. » Et ça, ça a duré très longtemps et ça, ça a créé beaucoup, beaucoup de confusion. Je sais pas comment je me présentais quand j'allais à l'étranger. Je me disais... je sais que j'arrivais pas, à un moment j'ai vraiment rejeté mes origines en disant mais je veux pas dire que je suis française, je me sens internationale, donc peut-être que je me présentais comme ça, et cherchais aussi beaucoup de vrai et de vulnérabilité dans mes connexions. Et je trouve que c'est quelque chose que je trouvais plus à l'étranger, où finalement, quand les gens sont loin de chez eux, ils s'ouvrent par rapport à leur histoire. En général, il y a une quête de sens. Et moi, je trouvais que ça crée des super, super conversations hyper profondes, alors que peut-être mes amis d'école de commerce, qui parlaient de bail ou d'achat d'appartement, ça me paraissait très, très fade, en fait, par rapport aux conversations que j'avais ailleurs. Et en même temps, tout ce qui se passait dans l'ailleurs était éphémère, et donc j'avais l'impression que je devais revenir dans la société, et donc je me réenfermais, et ça a été beaucoup d'allers-retours comme ça pendant très longtemps.
Et comment tu faisais professionnellement, du coup, tu te servais de ta licence d'hôtellerie et de restauration pour pouvoir trouver du boulot à l'étranger, parce que voyager a un coût aussi.
Ouais, j'ai beaucoup travaillé de manière saisonnière. C'était très chaotique, il n'y avait pas du tout de sens dans ma vie professionnelle pendant très longtemps. Mais j'avais toujours les bases d'hôtellerie-restauration, donc j'ai utilisé notamment les stages que je devais faire dans mon école pour aller à l'étranger. J'ai utilisé l'hôtellerie-restauration, j'ai fait des petits boulots de service, de cuisine, alors que par rapport à mon diplôme, entre guillemets, j'étais plus qualifiée que ça. Mais pour moi, c'était vraiment ce que je trouve. En fait, pouvoir partir était plus important que le développement de ma carrière pendant très très longtemps. Donc, j'ai évolué comme ça pendant assez longtemps. Et quand j'ai travaillé en Allemagne aussi, ça a été hôtellerie-restauration, service, cuisine. Donc ça a toujours été un peu mon... En fait, c'est des métiers dans lesquels on peut vite, facilement trouver du boulot un peu partout. Mais c'est pas non plus des... C'est jamais passionnant ou c'est jamais quelque chose qui va élancer notre carrière, entre guillemets. Mais ça m'a toujours servi, ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Aurélie, emmène-nous dans un pays coup de cœur, parce qu'à explorer le monde, il y a des pays où on se dit « Waouh, ici peut-être que c'est l'endroit dans lequel j'ai envie d'y rester.
» Un pays coup de cœur qui revient souvent, ça a été l'Indonésie, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors moi, j'adore l'Asie du Sud-Est d'une manière générale, parce qu'il y a un côté tropical, et puis mais très, très féminin, avec beaucoup de spiritualité, mais matérialisée au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste à l'église une fois par semaine, mais chaque jour, il y a des femmes qui font des offrandes, qui mettent de l'encens. Et en fait, le fait que ces pratiques, elles soient constamment autour de moi, autour de nous, je trouve que ça élève, en fait, dans les milieux où on vit. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup en Europe, parce que je trouve que c'est introuvable en Europe. Et c'est très présent en Asie du Sud-Est. Donc, moi, j'ai adoré, notamment Bali, même s'il y a des côtés, il y a des côtés un petit peu clichés avec cette destination et que maintenant, je sais qu'elle change très vite. Mais j'étais notamment sur les îles Flores, qui n'étaient pas encore très, très explorées en Indonésie à ce moment-là. J'ai pu rencontrer des tribus locales. On est allé chasser le gecko à la Sarbacane. J'ai rencontré un chaman local. On a sacrifié une poule pour qu'il puisse utiliser son sang pour me montrer des objets qu'il utilisait dans ses pratiques chamaniques. Ces rencontres, elles étaient assez incroyables dans ce milieu. Donc, je dirais que l'Indonésie est un gros pays, gros, gros pays coup de cœur. Et un autre que je peux mentionner qui surprend souvent les gens, c'est la Suisse. je trouve que la Suisse est magnifique. Vraiment ce côté montagne, nature, c'est... en fait, quand je ressens les deux destinations, il y a une espèce de distance qui se crée, comme si énergétiquement, en fait, le pays permettait ça. Enfin, par exemple, la Suisse, on se met sur la montagne, on voit les lacs, enfin, il y a une espèce d'immensité autour. Et je trouve que ça fait énormément de bien pour se distancer du quotidien et ça, ouais, ça élève.
Je suis sûr que tes parents préféraient te savoir en Suisse qu'en Indonésie.
Ouais, mes parents, ils ont été préparés relativement tôt, je dois dire. Et souvent, ouais, c'est quelque chose, je pense, auquel ils s'attendaient sans que ça parte aussi loin. Parce que déjà, à 15 ans, bah, je disais que je voulais partir. Et moi, j'étais très... bah, je veux quelque chose, en fait, je savais que ça allait arriver, en fait. C'était une évidence qu'ils me soutiennent ou qu'ils s'y opposent. Et je pense que mes parents ont compris très tôt, vu mon caractère, que c'est pas du tout quelque chose qu'ils auraient pu stopper. Quoi qu'ils fassent, je serais partie, en fait. Oui, ils m'ont relativement soutenue. Ils ont été dans l'acceptation de cette partie de moi, tout en, bah, en ayant un petit peu peur que je me trouve jamais, que je continue, que j'erre. Ma mère notamment, que j'ai pas d'enfant, que voilà, je passe des années à errer finalement, alors que pour moi, j'étais quand même dans une quête de quelque chose. Mais je sais pas, en fait, je me dis que peut-être la limite entre la quête, la recherche et le fait de finalement se perdre dans l'errance, bah, elles sont pas si éloignées.
On va parler aussi de cette notion de se perdre dans le voyage, parce que c'est vrai que ça peut vraiment être le cas. Cette notion d'intensité aussi qu'on retrouve dans le mouvement, hein, quand on revient ici, finalement tout paraît fade, parce qu'on connaît tous les codes culturels, on les a. Et quand on va se plonger dans un contexte culturel différent, on a l'impression de tout réapprendre, une couleur, des saveurs, des odeurs, et quelque chose d'assez stimulant, je trouve, hein, dans cette envie d'explorer, de découvrir, et une facilité aussi d'être en lien avec les gens du monde. Des fois plus facile de faire des copains à l'autre bout de la planète que chez soi, dans sa propre ville.
Ouais, tout à fait. Après, j'ai l'impression que ça dépend aussi des endroits. Moi, je sais que je suis partie parce que il y avait aussi une partie de moi qui me disait, bah, j'avais l'impression de pas coller aux normes sociétales, culturelles et familiales dans lesquelles j'avais évolué. Et je me dis que bah, si ça avait été le cas, ma vie aurait été beaucoup plus souple et facile et tracée. Et en fait, le fait de partir, pour moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'ensuite, ça permettait de repenser les normes. Et que du coup de les questionner, et quelque chose qui pour moi était inacceptable, c'est chaque fois quand je posais des questions, qu'on me disait bah, c'est comme ça, pour moi c'est comme ça, il n'a aucun sens. Et le fait de partir, on comprend que les normes qui finalement nous enferment, elles sont subjectives et qu'elles n'existent pas forcément ailleurs.
Et ce qui est intéressant dans les retours souvent, c'est qu'on te pose la question, alors c'était comment?
Ah oui. Alors j'ai jamais eu envie de répondre à cette question parce que c'est inexplicable. C'est impossible de retracer 6 mois de voyage voilà, en disant juste c'est comment. C'est tellement d'expériences, de changements. Ouais, c'est vrai que quand je rentrais chez moi, que ma mère me disait bah alors c'était comment, on en parlera plus tard parce que c'est pas résumable en fait. C'est pas. Ouais, je peux pas l'expliquer aussi rapidement. Et oui, et donc les illusions qui vont avec le voyage, bah, on se rend compte qu'au fur et à mesure. Même si il y a un mois ou 2 mois on se sentait hyper entouré, ben là on est rentré chez soi et on se sent hyper isolé, hyper seul, que ces personnes on va pas les revoir pendant si ça se trouve on va jamais les revoir, et ça commence à faire réfléchir au bout d'un moment en se disant ok, je l'ai fait une fois, deux fois, c'était génial, j'ai vécu plein de choses, mais j'ai plus envie de vivre ces phases de vide où je me sens finalement isolé alors que j'ai investi beaucoup beaucoup de temps. Je pense qu'il y avait ça, il y avait un moment où, peut-être la fin de ma vingtaine, j'avais plus envie d'investir du temps dans des relations qui étaient éphémères, parce que je manquais énormément de relations qui étaient bien ancrées, et du coup j'avais envie de donner de l'énergie là-dedans, mais je savais plus, je savais plus comment faire. Et donc à partir de là, je me suis dit ok, il faut que je me recadre, effectivement il faut que je reste quelque part, et là je me suis forcée à rester dans des endroits et ça n'a pas non plus fonctionné parce que ça allait contre moi, et c'est pour ça que bah, je disais au bout d'un moment il y a eu cette espèce de bon bah alors je pars ça fonctionne pas, je reste quelque part ça fonctionne pas, il y a eu cette espèce de lâcher prise en fait, cette réponse doit venir de plus haut que moi parce que je n'arrive pas à la construire mentalement, en fait j'arrive pas à voilà, ouais. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Il y a eu un espèce de lâcher prise. Après, je me suis aussi posée dans des endroits qui ne me correspondaient pas. Donc, je suis allée, quand je me suis forcée à me poser, il y a eu d'abord dans la banlieue parisienne, parce qu'à ce moment-là, c'est là où la plupart de mes amis vivaient. Et ça a été absolument... Bah, voilà, ça ne me correspond pas du tout, cette vie de banlieue, de grande ville. Ensuite, j'ai fait ça avec Barcelone. Je me suis dit, bon, bah, c'est pareil... C'est une grande ville, donc il y aura des opportunités de rencontrer des gens. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné non plus parce que la ville ne me correspond pas forcément. Mais moi, j'avais peur de l'isolement. Donc, je me suis dit que dans les grandes villes, il y aurait plus d'opportunités, ce qui n'est pas forcément le cas.
Il y a cette histoire ou ce conte, je ne sais pas si c'est polynésien ou peut-être indonésien, avec l'arbre et la pirogue. Tu le connais ?
Non.
Je vais te faire lire un conte.
Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue.
Et je trouve cette histoire, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle résume bien cette envie qu'on a effectivement de tout le temps prendre le large, ouais. Et ce besoin qu'on a aussi de s'ancrer, de s'enraciner quelque part, et finalement ouais. C'est peut-être voilà, trouver cet équilibre entre les deux,
ouais.
Et c'est effectivement avec un arbre qu'on fait la pirogue qui nous permet d'aller plus loin. Dans le voyage, je voulais aussi aborder la partie de ta manière de voyager, parce que tu me disais, ou j'ai cru comprendre, que tu voyageais souvent seule.
Ouais, je suis quasi toujours partie seule, ça m'a jamais fait peur le fait de partir seule. Mais dans différents cadres. Effectivement, je suis partie en stage, je suis partie en backpacking, en working holiday visa, je suis partie pour des fois étudier des choses, donc notamment le yoga en Inde. J'ai vraiment sous plusieurs formes ou en famille d'accueil, il n'y avait pas de façon spécifique de partir. C'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup cette envie de partir en backpacking et de voyager en itinérance. Et après, je me suis rendu compte que c'était fatigant parce que au bout d'un moment, juste de voir des choses, ça me remplissait pas. Il y avait un manque de construire quelque chose, d'apprendre quelque chose, de rencontrer des gens et que ça reste sur plusieurs, au moins sur plusieurs semaines. Mais ouais, j'ai expérimenté de manière différente. Ouais.
Parce que ça, c'est un gros sujet aussi, voyager seule en tant que femme. C'est un sujet que j'aime bien aborder aussi, parce qu'on est rempli de peurs. Hein. C'est souvent des peurs qui sont renvoyées par son premier cercle, son cercle familial ou ses amis. Donc parle-nous un petit peu de cette dynamique du voyage seule en tant que femme, notamment quand on fait du backpacking.
Ouais, alors moi, j'ai jamais eu cette peur. Peut-être même je ne l'ai pas assez eue, parce que je me rends compte que vraiment, je partais et j'avais aucune notion du danger. Enfin, je me faisais confiance, je pense, sur ce point-là. La seule fois où en fait, à force qu'on me dise « fais attention », où je me suis dit « bon, il faut que je me force à faire attention », c'était même pas inné, c'est quand je suis partie la première fois en Inde. Et à force qu'on me raconte des histoires, je me suis dit « ok, là, je vais faire un peu plus attention qu'ailleurs ». D'une manière générale, ça s'est toujours très très bien passé. Moi, j'ai jamais eu de soucis en voyageant. Mais j'aurais pu. Maintenant, je me vois avec... Parce qu'avec du recul, bah, je me suis retrouvée notamment en Indonésie à dormir chez quelqu'un que je connaissais pas du tout, par terre chez lui. Il aurait pu se passer plein de trucs, mais sur le coup, enfin, vous voyez, j'y ai pas pensé. En Inde, ça s'est toujours très bien passé aussi. Après, il y a eu des moments où j'ai eu un peu peur, mais pas en anticipation. Sur le coup, je me suis dit, là, s'il se passe quelque chose, c'est compliqué. C'est la première fois que je me suis retrouvée en Inde, la seule femme. Blanche, la seule femme, la seule blanche au milieu d'une foule de milliers de personnes, et que même mon chauffeur de tuk-tuk est resté à côté alors qu'il avait fini sa course. Là, je me suis dit, mais s'il y a un mouvement de foule pour quelques raisons, c'est fini, je peux absolument rien faire.
C'est vrai que l'Inde, c'est un peu quand même le voyage ultime du voyageur, souvent. Hein. C'est la destination qui effraie. Mais donc, toi, tu es partie seule, t'avais quand même un projet là-bas, ou c'était simplement partir avec ton sac sans vraiment savoir quoi y faire?
La première fois, alors j'y suis allée 4 fois. La première fois, c'était vraiment un voyage rencontre où j'avais prévu de rester 3 semaines, ce qui est relativement court pour moi. Et en fait, j'ai décidé de rester dans le Kerala, qui est une des régions qui est un peu plus safe, on va dire, un peu plus tranquille. pour avoir un peu une première expérience. Et ensuite, je suis retournée 3 fois. Donc ouais, il y a toujours eu un appel assez fort pour l'Inde à certaines périodes de ma vie. Et je trouve que les gens qui partent en Inde ont tous une histoire intéressante, en fait. C'est vraiment un pays où beaucoup de gens partent seuls, en quête de quelque chose, et souvent en quête de, voilà, d'une forme de spiritualité ou de se retrouver, ou notamment à Goa avec cette nostalgie du mouvement hippie dont moi aussi j'avais la nostalgie. Et oui, du coup, je trouve que c'est un pays qui est hyper, hyper intéressant dans les deux sens où ça peut être très intense au niveau ouverture spirituelle, etc. Mais ça peut être, je trouve, très dur aussi parce que tout est intense en Inde. Que ce soit, je me souviens que j'avais cette impression, mais tout, en fait, tout est plus fort au niveau des sens. C'est-à-dire que quand les sons sont forts, ils sont très, très forts. Quand il y a des odeurs, les odeurs sont très, très fortes. Quand c'est sale, c'est très sale, en fait. Tout est décuplé. Et je trouvais que pour les sens, en fait, des fois, c'était un peu... enfin, je me suis sentie un peu saturée au niveau des sens en Inde. Et en même temps, je trouve que j'ai fait tellement des rencontres, enfin, des super rencontres. Parce que des fois aussi, les gens, ils partent parce qu'ils ont vécu des choses difficiles chez eux et qu'ils ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin de s'ouvrir de nouvelles personnes, ils ont besoin de partir. Et je trouve qu'en Inde, il y a beaucoup ça. Et comme je t'avais dit, je trouve qu'ailleurs, en fait, les gens vont beaucoup plus vite dans ce qui est vrai et ce qui est dur et ce qui est vulnérable chez eux. Et moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, en fait, ce genre de conversation. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de mal à trouver, peut-être en Europe que quand je vais vers l'ailleurs.
Merci, merci à toi, Aurélie.
Je te remercie aussi pour cette interview.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.